Écoutons de l'Évangile selon Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 17. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas qu'on appelle Didyme, c'est-à-dire le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?»« Non », lui répondirent-ils. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ». Ils le jetèrent, et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui poser la question « Qui es-tu ? » Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne. Il fit de même avec le poisson. Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples, depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'affectionne. » Et Jésus lui dit alors, « Paix, mes agneaux. » Une deuxième fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'affectionne. » Jésus dit, Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'affectionnes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'affectionnes-tu ? » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'affectionne. » Et Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Pour qui connaît l'Évangile selon Jean, notre passage vient comme un ajout à la suite de ce qui pourrait être une première finale. En tout cas, il a semblé important à son auteur et il fait bien des liens avec ce qui s'est passé précédemment dans les évangiles. Mais désormais, Jésus est ressuscité. Cependant, on peut se demander comment Pierre, qui l'avait renié après son arrestation, vit-il cela au fond de lui? Uniquement dans la joie de cette résurrection ou avec également une pointe d'amertume? Même si Jésus lui avait dit qu'il avait prié pour que sa foi ne disparaisse pas. Si Jésus ressuscité est déjà apparu aux apôtres, notre texte pourrait donc se voir comme les retrouvailles réparatrices entre lui et Simon-Pierre, donc centré sur eux deux. Et pourtant, il y a une présence discrète, mais me semble-t-il importante, celle du disciple que Jésus aimait. Un fidèle parmi les fidèles. Un fidèle dans le sens de la fidélité, au point d'être resté au pied de la croix quand d'autres ont abandonné Jésus dans son calvaire. Un fidèle également dans le sens de la foi, à avoir cru en la résurrection au tombeau vide. Il en aurait de quoi en remontrer à Simon-Pierre. Et pourtant, il ne prend pas sa place. Il ne fait qu'offrir son talent, celui d'une clairvoyance, celui de discerner plus rapidement. Il est en quelque sorte une voix qui annonce « Là-bas, il y a le Christ ». C'est alors que Simon-Pierre joue pleinement son rôle, de leader, pourrions-nous dire aujourd'hui. Ni une, ni deux, il se jette à l'eau, non plus dans le dénuement, mais habillé du discernement offert par l'un de ses compagnons de pêche. Et c'est lui qui, le premier, répond à la demande du Seigneur d'apporter les poissons qu'ils viennent de pêcher. Et tous, s'ils n'osent questionner Jésus ressuscité, vivront peut-être le partage du pain et du poisson comme une allusion à ce partage qui a nourri une foule nombreuse. Ils ont désormais compris que l'on peut faire de grandes choses avec Jésus, pour peu que nous lui confions ce que nous avons, même si cela nous semble maigre par rapport aux besoins, et pour peu que nous lui fassions confiance. Mais revenons à Simon-Pierre, toujours aussi fougueux. Pas grand-chose n'a changé dans son caractère, depuis cette pêche surprenante et surabondante, à la suite de laquelle Jésus l'a invité à devenir pêcheur d'hommes. C'est que Jésus nous prend comme nous sommes, à l'image de Simon-Pierre, hier comme disciple, aujourd'hui comme futur pasteur, malgré l'échec qu'il a vécu. Pas grand-chose ne change non plus pour l'équipe de pêcheurs, si ce n'est que leur unique filet ne se déchire pas, cette fois-ci, sous le nombre de poissons. Symbole d'unité, peut-être. Peut-être aussi que ces 153 poissons, ici dénombrés, ne dépassent pas les limites de ce qu'ils sont capables de supporter ces jours-là. Car, quoi qu'il en soit du filet et du nombre de poissons, nous sommes bien, en ces jours-là, dans un entre-deux. Les disciples ne sont pas encore à témoigner de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, par monts et par veaux, pour celles et ceux qui croiront à leur suite, mais sans avoir vu, comme eux, le ressuscité. Un entre-deux également pour Simon-Pierre, qui, de pêcheur d'hommes, doit devenir pleinement berger. Non plus seulement prendre indistinctement toutes les personnes qui viennent au Christ, mais les appeler chacune par leur nom. Car oui, c'est ainsi que fait le bon berger, jusqu'à, si besoin, se dessaisir de sa vie pour elle. Oui, Simon-Pierre aime Jésus. Oui, il est prêt, ou en tout cas il désire faire beaucoup pour lui, jusqu'à avoir voulu être son ultime défenseur, son garde du corps, en dégainant son glaive lors de son arrestation. Alors que c'est Jésus qui défend la vie des siens, en refusant de les entraîner dans la violence, et en demandant donc à Pierre de rengainer son arme. Mais face à ce chemin évangélique qui a conduit Jésus au calvaire, Pierre l'a donc finalement renié par trois fois. Alors les trois demandes de Jésus sont peut-être une leçon pour ce Simon qui n'a pas été Pierre, qui s'est cru fort, alors qu'il n'a pas été un roc dans ce chemin du témoignage évangélique, face à la violence qui l'a finalement scandalisé comme les autres. Une leçon certes un peu amère pour lui, car la troisième insistance le rend triste. Si les trois questions de Jésus se font ainsi marquantes pour Simon-Pierre, c'est dès la première que quelque chose d'essentiel semble se passer. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Et Pierre de répondre, oui Seigneur, tu sais que je t'affectionne. Simon-Pierre confesse son amour, mais il n'a plus la prétention de l'emporter sur les autres. Il n'a même plus la prétention d'avoir un amour avec un grand A, mais à tout le moins de l'affection, si l'on peut traduire ainsi le subtil jeu de mots entre Pierre et Jésus dans ces trois demandes. Non seulement Pierre n'a plus cette prétention par rapport aux autres, mais l'annonce du disciple que Jésus aimait lui a été, si ce n'est nécessaire, bien utile. On ne fait pas église seule, avec ses seules forces, y compris quand on a l'ardeur de Pierre, qui a bien souvent osé se lancer en premier, pour les autres, au risque de se faire reprendre. Alors voilà peut-être deux bonnes nouvelles que l'on peut, me semble-t-il, discerner dans ce passage. La première, c'est que l'on fait église ensemble, que l'on ne peut faire église qu'ensemble, en reconnaissant d'une part que seul Jésus sait de quel amour chacun, chacune l'aime. En reconnaissant d'autre part les aptitudes de chacun, de chacune, qu'elles soient furtives comme une parole clairvoyante ou visibles plus longuement comme des actions pleines d'entrain. Toutes ces capacités vécues en Christ, comme des dons de la grâce, offerts pour le bien de toutes et tous. La seconde, c'est que nous pouvons nous trouver dans un entre-deux, entre la certitude de la foi déjà là et le pas encore d'une mission à accomplir. Alors, si c'est le cas, pas d'empressement. Laissons infuser les grâces que nous offre le Christ, même si cela peut passer par reconnaître nos propres limites, par nous défaire de nos prétentions mal ajustées, par accueillir les ombres de notre histoire, comme des expériences jadis mortifères, mais désormais visitées par la présence réparatrice du Christ ressuscité. Alors, laissons chacun et chacune avancer à son rythme, car, où que nous en soyons, nous pouvons, tous et toutes ensemble, nous rassasier du pain de vie qu'il nous offre, de cette chaleur qu'il a allumée pour nous sur la rive, ce qui, finalement, fait une troisième bonne nouvelle. Amen.